Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver.
Les années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Avec Ludmila Michael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Troisième émission.
Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés.
Sur une photo en noir et blanc, deux filles dans une allée, épaule contre épaule, toutes les deux les bras derrière le dos. En fond, des arbustes et un haut mur de briques. Au-dessus, le ciel avec de grands nuages blancs. Au dos de la photo, juillet 1955, dans les jardins du pensionnat Saint-Michel. À gauche, la plus grande des filles, blonde, avec des cheveux courts, en coup de vent. Une robe claire et des soquettes, son visage est dans l'ombre. À droite, une brune, aux cheveux frisés, courts, des lunettes sur un visage plein, au front haut, traversé par la lumière, un pull foncé à manches courtes, une jupe à pois. Toutes les deux portent des ballerines, la brune est pieds nus dedans. Elles ont dû enlever leur blouse de classe pour la photo.
Même si on ne reconnaît pas dans la brune la petite fille à nattes de la plage, qui pourrait aussi bien être devenue la blonde, c'est elle, et non la blonde, qui a été cette conscience, prise dans ce corps-là, avec une mémoire unique, permettant donc d'assurer que les cheveux frisés de cette fille provenaient d'une permanente, rituel en mai depuis la communion solennelle, que sa jupe avait été taillée dans une robe de l'été d'avant, devenue trop étroite, et le pull tricoté par une voisine. Et c'est avec les perceptions et les sensations reçues par l'adolescente brune à lunettes de 14 ans et demi que l'écriture ici peut retrouver quelque chose qui glissait dans les années 50. Capter le reflet projeté sur l'écran de la mémoire individuelle par l'histoire collective. En dehors des ballerines, il n'y a rien dans l'apparence de cette adolescente qui ressortisse à ce qui se fait alors et qu'on voit dans les journaux de mode et les magasins des grandes villes. Longue jupe écossaise à mi-mollet, pull noir et gros médaillon, queue de cheval avec frange à la façon d'Audrey Hepburn dans Vacances romaines. La photo pourrait dater de la fin des années 40 ou du début des années 60. Aux yeux de tous ceux qui sont nés après elle, elle est simplement ancienne, appartient à la préhistoire de soi où s'aplanissent toutes les vies qui ont précédé. Pourtant, cette lumière qui éclaire d'un côté le visage de cette fille et son pull entre les seins qui pointent, a été sensation de chaleur d'un soleil de juin, d'une année, qui pour les historiens comme pour les vivants d'alors, ne peut se confondre avec aucune autre. 1955.
Toi qui disais que tu l'aimais.
Dans les rues. Sur les pavés mouillés,
tu l'aimes,
traîne des lueurs,
qui disait,
sans joie. une fille qui disait, pleurant sous la pluie.
Tu l'aimes,
et pense
toi,
encore
qui disait,
à toi.
Tu l'aimes.
Toi qui disais que tu l'aimais plus que la vie. Qu'as-tu fait de ton amour pour qu'il pleure sous la pluie? Te souviens-tu le jour où tu l'as connu, ça t'a coûté de l'argent, mais ça t'a fait du bon temps, c'était un fameux samedi. Et l'ampion de la baraque aux frites, où tout va vite, au son de l'accordéon, tournait en rond.
Elle n'est jamais allée encore à Paris, à 140 km, ni à aucune surpatte. Elle n'a pas de tourne-disque. En faisant ses devoirs, elle écoute les chansons du poste dont elle écrit les paroles dans un carnet et qu'elle porte dans la tête des journées entières, en marchant, en suivant les cours. Toi qui disais que tu l'aimais, qu'as-tu fait de ton amour pour qu'il pleure sous la pluie? Elle ne parle pas aux garçons. Elle y pense tout le temps. Elle voudrait avoir le droit de mettre du rouge à lèvres, porter des bas et des talons hauts. Les soquettes lui font honte, elle les enlève hors de la maison. Afin de montrer qu'elle appartient à la catégorie des jeunes filles et qu'elle peut être suivie dans la rue. À cette fin, le dimanche matin après la messe, elle traîne en ville en compagnie de deux ou trois copines du même milieu simple qu'elle, veillant toujours à ne pas transgresser la rigoureuse loi maternelle de l'heure.
Quand je dis telle heure, c'est telle heure, pas une minute de plus.
Elle compense l'interdiction générale de sortir par la lecture des feuilletons dans les journaux, Les gens de Mogador, Afin que nul ne meure, Ma cousine Rachel, La citadelle. Constamment, elle s'y réalise dans des histoires et des rencontres imaginaires qui finissent en orgasme le soir sous les draps. Elle se rêve en putain et elle admire aussi la blonde de la photo, d'autres filles de la classe au-dessus, qui la renvoient à son corps empoissé. Elle voudrait être elle. Au cinéma, elle a vu La Strada, Le Défroqué, Les Orgueilleux, La Mousson, La Belle de Cadix. Le nombre de films qui lui sont interdits, dont elle a envie, Les Enfants de l'amour, Le blé en herbe, Les compagnes de la nuit, etc., est plus grand que l'autorisé. Qu'y a-t-il en elle comme savoir sur le monde, en dehors des connaissances accumulées jusque dans cette classe de quatrième ? Quelle trace des événements et faits divers qui font dire plus tard « je me souviens » quand une phrase entendue par hasard les évoque? La grande grève des trains de l'été 53, la chute de Dien Bien Phu, la mort de Staline annoncée à la radio un matin froid de février juste avant de partir pour l'école, les élèves des petites classes en rang vers la cantine pour boire le verre de lait de Mendès France, la couverture faite de morceaux tricotés par toutes les élèves et envoyée à l'abbé Pierre, dont la barbe est prétexte à des histoires cochonnes. La vaccination monstre de toute la ville à la mairie contre la variole, parce que plusieurs personnes en sont mortes à Vannes. Les inondations en Hollande. Sans doute pas dans sa pensée les derniers morts dans une embuscade en Algérie, nouvel épisode des troubles dont elle saura seulement plus tard qu'ils se sont déclenchés à la Toussaint 54. Et elle se reverra ce jour-là, dans sa chambre, assise près de la fenêtre, les pieds sur son lit, regardant les invités d'une maison en face sortir les uns après les autres dans le jardin, pour uriner derrière le mur aveugle. Si bien qu'elle n'oubliera jamais ni la date de l'insurrection algérienne, ni cet après-midi de Toussaint pour lequel elle disposera d'une image nette. Une sorte de fait pur, une jeune femme s'accouvant dans l'herbe et se relevant en rabattant sa jupe. Dans la même mémoire illégitime, celle des choses qu'il est impensable, honteux ou fou de formuler, il y a Une tache brune sur un drap de sa grand-mère, morte depuis 3 ans, dont sa mère a hérité. Une tache indélébile, qui l'attire et lui répugne violemment, comme vivante. La scène entre ses parents, le dimanche avant l'examen d'entrée en 6e, au cours de laquelle son père a voulu supprimer sa mère en l'entraînant dans la cave près du billot où la serpe était fichée. Le souvenir qui lui vient tous les jours quand, dans la rue vers l'école, elle passe devant le talus où elle a vu, un dimanche de janvier d'il y a 2 ans, une petite fille en manteau court s'amusant à enfoncer un pied dans l'argile gorgée d'eau. L'empreinte du pied était là le lendemain. Elle est restée pendant des mois. Les grandes vacances seront une longue étendue d'ennuis, d'activités minuscules pour remplir les journées. Écouter l'arrivée de l'étape du Tour de France, coller la photo du vainqueur dans un cahier spécial, relever les numéros de département sur les plaques minéralogiques des voitures croisées dans la rue, lire dans le journal régional les résumés des films qu'elle ne verra pas, des livres qu'elle ne lira pas, broder un porte-serviette, extraire des points noirs et se passer de l'eau précieuse ou des rondelles de citron, monter en ville, acheter du shampoing et un petit classique Larousse, en passant les yeux baissés devant le café où les garçons jouent au flipper. L'avenir est trop immense pour qu'elle l'imagine. Il arrivera. C'est tout. Quand elle entend les petites filles des classes enfantines chanter dans la cour de récréation « Cueillons la rose sans la laisser flétrir », il lui semble qu'elle a été enfant il y a très longtemps.
I'm in love with you. Say you love me too. Darling, why don't you confess? For it's so plain to see you were meant for me. Your love brings happiness. Say you're mine alone. Step down from your throne. My life is yours to command. I need you all the time. Won't you say you're mine and love me like I'm loving you? I can't sleep thinking about you and the things we used to do.
À la moitié des années 50, dans les repas de famille, les adolescents restaient à table, écoutant les propos sans s'y mêler, souriant poliment aux plaisanteries qui ne les faisaient pas rire, aux remarques approbatrices dont ils étaient l'objet sur leur développement physique, aux grivoiseries voilées destinées à les faire rougir, se contentant de répondre aux questions émises précautionneusement sur leurs études, ne se sentant pas encore prêts à entrer de plein droit dans la conversation générale, même si le vin, les liqueurs et les cigarettes blondes autorisées au dessert marquaient le début de leur intronisation dans le cercle des adultes. Après les commentaires sur les plats en train d'être dégustés, qui appelaient les souvenirs des mêmes mangés en d'autres circonstances, les conseils sur la meilleure façon de les préparer, les convives discutaient de la réalité des soucoupes volantes, du Spoutnik et de qui, des Américains ou des Russes, iraient les premiers sur la Lune, des cités d'urgence de l'abbé Pierre, de la vie chère. La guerre finissait par revenir sur le tapis. Il rappelait l'exode, les bombardements, les restrictions de l'après-guerre, les azous, les pantalons de golf. C'était le roman de notre naissance et de notre petite enfance qu'on écoutait dans une nostalgie indéfinissable, la même qu'on ressentait en récitant avec ferveur « Rappelle-toi Barbara », recopié dans un cahier personnel de poèmes. Mais dans le ton des voix, il y avait de l'éloignement. Quelque chose s'en était allé avec des grands-parents décédés qui avaient connu les deux guerres, les enfants qui poussent, la reconstruction achevée des villes, le progrès et les meubles à tempérament. Les souvenirs des privations de l'occupation et des enfances paysannes se rejoignaient dans un passé révolu. Les gens avaient tellement la conviction de vivre mieux. Il n'était déjà plus question de l'Indochine, si lointaine, si exotique. Deux sacs de riz suspendus de part et d'autre d'une tige de bambou, selon le manuel de géographie, et perdus sans excès de regret à Dien Bien Phu, où n'avaient combattu que des têtes brûlées, des engagés volontaires qui n'avaient pas de métier dans les mains. C'était un conflit qui n'avait jamais été dans le présent des gens. Ils n'avaient pas non plus envie d'assombrir l'atmosphère avec les troubles en Algérie, dont personne au juste ne savait comment ils avaient commencé. Mais ils étaient tous d'accord, et nous aussi qui l'avions au programme du BEPC, l'Algérie avec ses trois départements était la France, comme une grande partie de l'Afrique où nos possessions couvraient sur l'Atlas la moitié du continent. Il fallait bien que la rébellion soit matée, nettoyer les nids de Fellaga, ces égorgeurs rapides dont on voyait l'ombre traîtresse sur la figure basanée du pourtant gentil « Sidi, mon ami » colportant des descentes de lit sur son dos. Personne ne parlait des camps de concentration, sinon incidemment, à propos de tel ou tel ayant perdu ses parents à Buchenwald. Un silence contristé suivait. C'était devenu un malheur privé.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4,
dessert, les chansons patriotiques d'après la libération avaient disparu. Les parents entonnaient « Parlez-moi d'amour », de vieux jeunes gens au Mexico et les enfants « Ma grand-mère était cow-boy ». Nous, on aurait eu trop honte de chanter comme avant « Étoile des neiges ». On répugnait farouchement à dévoiler des goûts musicaux qu'ils ne pouvaient comprendre, eux qui ne connaissaient pas un mot d'anglais en dehors de « Fuck you » après la libération. Ignoraient l'existence des Platters et de Bill Haley. Mais le lendemain, dans le silence de la salle d'études, au sentiment de vide qui nous envahissait, on savait que la veille avait été, même si on s'en défendait, qu'on avait cru rester extérieur et s'ennuyer, un jour de fête. Pris dans le temps infiniment lent des études, le petit nombre de jeunes qui avaient la chance de les continuer trouvait, dans la sonnerie régulière des heures de cours, le retour des compositions trimestrielles, les explications interminables de Cinna et d'Iphigénie, la traduction du Promilone, qu'il n'arrivait jamais rien. On notait des phrases d'écrivains sur la vie, découvrant le bonheur de se penser dans des formules étincelantes. Exister, c'est se boire sans soif. Le sentiment de l'absurde et la nausée nous envahissaient. Le corps poisseux de l'adolescence rencontrait l'être en trop de l'existentialisme. On collait sur les feuilles d'un classeur les photos de Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme », gravait dans le bois du pupitre les initiales de James Dean. On recopiait des poèmes de Prévert, les chansons de Brassens, « Je suis un voyou » et « La première fille », interdite à la radio. On lisait en cachette « Bonjour tristesse » et les trois essais sur la théorie de la sexualité. Le champ des désirs et des interdictions devenait immense. La possibilité d'un monde sans péché s'entrouvrait. Les adultes nous suspectaient d'être démoralisés par les écrivains modernes et de ne plus rien respecter. Dans l'immédiat, le désir le plus déterminé était de posséder un électrophone et au moins quelques micro-sillons, des objets chers dont on pouvait jouir seul, sans fin, jusqu'à l'écœurement ou avec d'autres, qui classaient dans la partie la plus évoluée de la jeunesse la lycéenne aisée, qui portait des duffelcoats, appelait ses parents « mes vieux » et disait « ciao » pour « au revoir ». On était avide de jazz et de negro spirituals, de rock'n'roll. Tout ce qui se chantait en anglais était nimbé d'une mystérieuse beauté. Dream, love, heart, des mots purs, sans usage pratique, qui donnait le sentiment d'un au-delà. Dans le secret de la chambre, on se faisait une orgie du même disque. C'était comme une drogue qui emportait la tête, éclatait le corps, ouvrait devant soi un autre monde de violence et d'amour, se confondant avec la surboom où il tardait tant d'avoir le droit d'aller. Elvis Presley, Bill Haley, Armstrong, les Platters incarnaient la modernité, l'avenir, et c'était pour nous les jeunes, et nous seuls, qu'ils chantaient, laissant derrière les vieux goûts des parents et l'ignorance des péquenauds, le pays du sourire, André Claveau et Lynn Renault. On se sentait appartenir à un cercle d'initiés. Cependant, les amants d'un jour donnaient la chair de poule. On se retrouvait encore dans le silence des vacances, les bruits séparés, distincts de la province, les pas d'une femme allant aux commissions, le glissement d'une voiture, le martèlement d'un atelier de soudure. Les heures s'usaient en buts infimes, activités étirées, classer les devoirs de l'année, ranger un placard, lire un roman en s'efforçant de ne pas le finir trop vite. On se regardait devant la glace, on s'impatientait d'avoir les cheveux assez longs pour les tirer en queue de cheval. On guettait l'improbable venue d'une copine. Au souper, il fallait nous arracher les mots de la bouche. On laissait de la nourriture, s'attirant le reproche.
Si tu avais eu faim pendant la guerre, tu serais moins difficile.
Au désir qui nous agitait était opposée la sagesse des limites.
Tu demandes trop à la vie.
À force de tourner et de se croiser en bandes séparées le dimanche après la messe ou le cinéma, d'échanger des regards, filles et garçons s'abordaient. Eux imitaient leurs profs, faisaient des jeux de mots et des contrepétries, se traitaient de puceaux, se coupaient la parole.
Raconte pas ta vie, elle est pleine de trous. Tu connais le refrain du presse-purée ? Écrase et continue.
T'as le gâche chez toi, va te faire cuire un œuf.
Ils s'amusaient à parler bas pour que l'on ne comprenne pas et s'écriaient
« La masturbation rend sourd !»
Ils feignaient de se boucher les yeux devant l'exhibition d'une gencive enflée et s'écriaient
« On a vu assez d'horreur pendant la guerre !»
Ils s'octroyaient le droit de tout dire. Ils étaient les détenteurs de la parole et de l'humour. Ils se débondaient en histoire sale. Les filles souriaient avec réserve. Même si elles ne le trouvaient pas forcément drôle, c'était un spectacle que leur offraient les garçons en virevoltant autour d'elles. Elles en concevaient de la fierté. C'est grâce à eux qu'elles enrichissaient leur stock de mots et d'expressions qui les feraient paraître évoluer aux yeux des autres filles quand elles diraient « aller au pieu », « à Falzar », etc. Mais on se demandait avec angoisse, les uns et les autres, ce qu'on pourrait bien se dire en tête à tête. Et il fallait toute la sollicitude curieuse du groupe pour nous soutenir avant de se rendre au premier encart.
Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. It's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rip it up. Having a ballin' night.
C'était Les Années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Troisième émission. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Et les voix de Yolande Folio, Jean-Claude Sachaud, Philippe Bautier, Thomas Sagols. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les Années de Annie Ernaux est publié aux éditions Gallimard.